question d'aujourd'hui. Avec Mario Barr.
Bienvenue à Question d'aujourd'hui. Très heureux de vous retrouver pour cette émission qui vous est présentée en collaboration avec l'Office de catéchèse du Québec. Comme vous le savez, j'aime beaucoup aborder des sujets qui vont un petit peu, comme le dirait le pape François, en périphérie de l'Église. Et là, on est en pleine périphérie, on est en plein dans un champ complètement différent, mais peut-être pas si différent que ça. J'ai bien hâte de parler avec nos deux invités, puisqu'il s'agit de démarches artistiques aujourd'hui. Il s'agit de parler des œuvres également de l'artiste Mehel, qui est artiste peintre, sculpteur également. Elle est originaire de l'Algérie et aujourd'hui, elle porte cet ensemble qui me fait penser à l'Algérie, mais c'est pas du tout de l'Algérie. Premièrement, bonjour Mehel.
Bonjour et je vous remercie de me recevoir dans votre studio en compagnie du professeur Cornette. Et oui, c'est pas une tenue d'Alger, absolument pas. Vous voyez, c'est un exemple où ces motifs, vous allez les retrouver dans plusieurs endroits. Cultures. Effectivement, je l'ai acheté ici, mais je crois que même il est d'origine d'Amérique centrale.
Ah oui,
pourtant,
d'accord.
Ce sont des motifs géométriques que l'on retrouve aussi dans certains dessins maghrébins, effectivement.
Eh ben, bienvenue en tout cas, Mehel.
Merci.
Merci beaucoup d'accepter
merci
l'invitation.
Beaucoup.
Et professeur Norman Cornette, bonjour.
Bonjour et merci pour l'invitation, monsieur Barr. Pourquoi cette entrevue? Pourquoi suis-je commissaire invité de Mehel? Certes, à cause de son art,
ouais.
Mais également à cause de sa pensée. Et vous avez dit tout à l'heure qu'elle est née en Algérie. C'est vrai et non. Et je laisse à Mehel le soin d'expliquer ses origines.
Oui, juste indiquer avant que vous serez à l'animation de quelques ateliers dialogiques, on y reviendra en deuxième partie de l'émission, dans le cadre de cette exposition qui a lieu à Montréal du 19 au 30 octobre à la galerie Erga, merci beaucoup. Donc, vous cherchez bien sûr sur vos moteurs de recherche respectifs et vous trouverez très facilement l'adresse donc de cette galerie où l'on présente, c'est en plein cœur, je crois, du quartier Rosemont,
oui.
Où l'on présente ces œuvres de Mehel. Mehel, donc, vous êtes d'origine algérienne, mais vous êtes également de d'autres origines, si j'entends bien le professeur Cornette.
En fait... Je crois que le Maghreb lui-même est peuplé de plusieurs ethnies. Ce sont des peuples qui ont traversé cette région. Donc effectivement, il y a sûrement une origine multiple. Mais de fait, je suis née réellement en mer.
Ah oui, d'accord.
Oui. Donc je me sens effectivement beaucoup plus appartenir
à l'universel.
Oui, exactement. Et non, je n'ai pas effectivement ce sentiment d'appartenance à une terre particulière.
Ah, est-ce que vous avez le pied marin? Parce qu'on dit souvent, les gens n'ont pas nécessairement...
J'aime la mer, mais je ne recherche pas vivre sur mer, non.
Vous parlez de l'océan, vous parlez de votre naissance sur l'océan, sur la mer. En fait, est-ce que vous croyez... De quelle manière est-ce que vous croyez que cela vous influence aujourd'hui? Est-ce que vous croyez d'abord que ça vous influence aujourd'hui encore?
Je ne sais pas si l'influence vient de là. Je ne sais pas si l'influence vient de mon vécu et aussi de l'éducation que j'ai pu recevoir. J'ai grandi dans un milieu où j'ai les premiers termes qui m'ont fortement marqué et peut-être déterminé aussi, qui ont déterminé peut-être mes choix de vie. Mon père, j'entendais déjà dire, j'avais peut-être 5 ans, 6 ans, j'entendais dire « je suis citoyen du monde ». Donc pour moi,
Je suis citoyen du monde.
Exactement. Donc pour moi, j'étais déjà installée là-dedans. Donc, je n'ai pas eu de difficultés. Je ne me suis pas recherchée par la suite et décidée d'être.
Ouais.
Je l'étais.
Vous aviez déjà tous ces...
Oui.
Vous étiez déjà là,
oui.
Donc complètement, parce que
oui.
Votre père le
oui,
disait
exactement.
Régulièrement.
Oui, exactement, il me le disait. Et puis oui, peut-être que le fait d'être né en mer, donc la mer Méditerranée est quand même, elle est bordée de plusieurs pays.
Multiculturel, multilégende.
J'ai reçu moi-même, j'ai baigné dans plusieurs cultures et... C'est pour ça que je ne peux pas me déterminer ou de me définir par rapport à une seule culture. Parce que je considère que les cultures s'installent en nous comme des strates, comme ouais. Les strates dans la terre. Donc, et on ne peut pas annuler une par rapport à une autre. On est fait de toutes celles qu'on a pu rencontrer.
Ah oui. Donc pour vous, les rencontres sont extrêmement importantes.
Importante et enrichissante.
Oui.
C'est et, certain.
Et je crois qu'il est intéressant, quand elle, puisqu'elle a parlé de son père, on a eu des échanges sur l'expérience de sa famille lors de la guerre en Algérie. Mm-hmm. Et ça m'a ouvert les yeux.
Oui, sur... Oui. Sur ce que vous êtes ou sur ce que vous êtes devenu, j'imagine.
Sur peut-être ce que je suis ou ce qui a en tout cas renforcé mes croyances et oui, mes croyances et le choix de mes actes.
Mm-hmm.
Oui, parce que vous faites allusion à... C'est très particulier. Mon père a participé
À la guerre d'indépendance.
À la révolution, oui, à la... pacifiquement.
Ouais.
Mais il a participé et il l'a fait pas par nationalisme, parce qu'en fait, le nationalisme, pour moi, est réducteur. Et le nationalisme n'est pas en harmonie avec lorsqu'on se définit comme citoyen du monde.
Mm-hmm.
Notre nation, c'est le monde.
Ouais.
Donc on n'a pas de nation autre que le monde.
Ouais.
Et le nation est très réducteur, le mot nation. Et lui, il l'a fait beaucoup plus pour des raisons d'injustice ou de choses qui étaient incohérentes avec ses idées. C'est quelqu'un qui nous lisait aussi bien les poèmes de Omar Khayyam que de Victor Hugo. Donc deux poètes qui étaient franchement des symboles de la liberté.
Mm-hmm.
Et pour ça, effectivement. Et il y a aussi autre chose, il est allé jusqu'à... Bon, il a été arrêté, il a connu la torture. Et malgré ça, il n'a jamais connu la haine. Jamais. Oui.
Vous avez un père qui n'a jamais connu la haine malgré cet emprisonnement
oui,
pour
jamais,
la liberté. Pour...
Jamais. Au lendemain, c'est-à-dire que ça n'a même pas demandé quelque temps. Au lendemain même de sa libération... Il avait des positions et des comportements qui, justement, exprimaient cette absence de haine en lui.
Mais où avait-il cette source? Où tirait-il cette source? Est-ce que vous avez une idée là-dessus? Est-ce qu'il en a pas? Est-ce qu'il vous en a parlé?
Ben, il était artiste, créateur, modéliste. C'est un perfectionniste.
Mm-hmm.
Et il lisait énormément. Donc ce sont ses lectures, et je crois que c'était en lui, cet amour de la liberté, ce respect de l'autre.
Cet amour de la vie, cette conviction
voilà,
qu'il y
exactement.
A.
Voilà, exactement, oui.
Et donc, oui. Par la lecture, par oui. la recherche...
Oui, et c'est un monde, les créateurs modélistes, et particulièrement la chaussure, c'est un monde très particulier, ça
oui,
foisonne beaucoup d'esprits différents et...
On sait à quel point oui. soulier, c'est important.
Oui.
Et pourtant, on en fait un objet assez anodin, mais si on n'avait pas de souliers, ça irait très mal.
Oh, mais je sais qu'une personne avait même, je crois, le sujet de sa thèse était le pied. Le pied, l'importance du pied
ouais.
d'être chaussé.
La base.
Oui, effectivement.
Et vous croyez donc que c'est à partir de cette réflexion sur son propre métier qu'il a été aussi convaincu... j'oserais dire, non seulement de faire la liberté, comme le dit l'expression, mais de le faire pacifiquement, de le faire avec une...
Je pense que ce n'est peut-être pas lié à la chaussure, c'est beaucoup plus lié à lui-même et à ses lectures, peut-être. Je sais qu'il a toujours, je vous dis, parmi ses lectures, il m'en citait pas mal, mais ce qui me revient en mémoire, c'est beaucoup Victor Hugo et Omar Khayyam. Omar Khayyam est un écrivain iranien. Il est connu pour ses quatrains et où il mon Dieu, c'était toujours la liberté. Il avait des poésies sur le vin, sur la liberté des êtres et de penser.
Et vous soulevez là deux points importants dans nos échanges, Maëlle. C'est votre concept de la libération vis-à-vis la liberté. Et vous avez vécu la guerre de la libération.
La liberté vis-à-vis... répétez ça parce que c'est trop important, ça.
C'est que, au fur et à mesure qu'on parle, je me rends compte qu'elle a des concepts bien articulés. Et de la libération, et elle a vécu la guerre de la libération, entre guillemets, et la liberté.
Ah oui, d'accord. c'est d'acquérir cette liberté, et parfois ça, on paie le prix. En tout cas, votre père en a payé le prix, mais il a choisi de le faire de façon non violente.
Oui.
C'est un choix qui n'est pas très populaire. J'aimerais qu'on y revienne tout de suite après la pause, parce que, mais en même temps, on va parler de vos œuvres, mais bien sûr, de votre propre démarche artistique. On parle beaucoup de votre père, mais j'imagine que c'est une de vos grandes influences.
Oui, mes parents, oui, je le dis dans mes textes, ma première école, c'était d'abord la famille. J'ai deux parents artistes qui m'ont inculqué l'amour de l'art et l'amour surtout de la perfection.
Ouais. Vous êtes toujours à l'émission Questions d'aujourd'hui et je me trouve en compagnie du professeur Norman Cornett qui a mis en place cette exposition, si je ne m'abuse, qui est commissaire d'une exposition présentée par l'artiste peintre-sculpteur Maëlle. Et donc, c'est du 19 octobre au 30 octobre. Ça se déroule à la galerie Erga. C'est dans le quartier Rosemont. Et vous allez y animer. Là,
mais justement, samedi 28 octobre, de 11h à 13h. Et de nouveau, le dimanche, de 14h à 16h, le 29 octobre, on aura des ateliers dialogiques. Et c'est ouvert au grand public. On vous invite de parler en toute intimité avec Maëlle de sa vision créative, de sa démarche artistique.
Voilà. Et justement, Maëlle, vous êtes là vous parlez dans votre démarche artistique sur votre site web, c'est très clair. Et ce qui m'a frappé au départ, c'est l'exigence de vos parents d'être perfectionner, d'être toujours à la recherche d'une perfection. Et vous mentionnez également votre amour jusqu'à un certain point pour la sobriété, pour des styles épurés qui vont jusqu'au style japonais. Et je vois que vous avez des tableaux, en tout cas devant les yeux, et qui seront probablement à certains d'entre eux à l'exposition. Est-ce qu'il y a en vous, j'oserais dire, et là je vais utiliser peut-être un mot qu'on utilise peu souvent ou qu'on ne met pas nécessairement dans une démarche artistique, est-ce qu'il y a en vous une démarche spirituelle qui est liée à tout ça? Est-ce que une démarche de sens, dans le sens de quête de sens?
En fait, je ne peux pas distinguer la raison de mon travail de ma quête personnelle. C'est un tout. Je crois que l'expression, enfin, ce qui s'exprime et ce qui se manifeste dans mon travail n'est que les résultats d'un parcours, le résultat d'un cheminement, donc d'une quête. Oui, elle est là. C'est toujours cette quête de pourquoi le beau, pourquoi l'esthétique, cette quête. Parce que le beau, dans tout domaine, nous éloigne... l'amour du beau. la connaissance du veau, la quête du veau, nous éloigne de tout ce qui peut être plutôt négatif et malsain en nous. Et le beau, pour moi, c'est ça, c'est tendre vers un tout.
Mm-hmm. Ce n'est pas un beau seulement pour faire beau, mais c'est la beauté dans toute sa grandeur, âme, dans toute sa richesse.
Oui. Et le regard, je trouve que cette beauté s'enrichit du regard sur le beau.
Mm-hmm. Si nous n'avions pas cette quête, si vous n'aviez pas cette quête de sens, il est clair que la beauté que vous mettez en scène, j'ose dire, dans vos tableaux, elle serait peut-être différente.
Exactement.
Voilà.
Oui. Moi, je pense, et maintenant, si on voit une certaine sobriété, peut-être que j'ai besoin d'aller à l'essentiel, j'ai besoin de voir les lignes, parce que les lignes sont beaucoup plus visibles, les mouvements sont plus visibles, ils ne sont pas noyés dans, comment dirais-je, trop d'éléments. Là, je vais revenir peut-être à un détail, à une philosophie japonaise.
Oui, allez-y.
J'avais posé la question, j'ai mangé au Japon et j'ai goûté à des mets franchement fabuleux. Et en posant la question, il n'y avait aucun condiment. C'est-à-dire qu'il y avait des aliments, oui, mais pas d'épices.
Ah.
J'ai posé la question. Et on vous dit, si le légume est arrivé à maturité dans une terre, une très bonne terre, s'il est cueilli à sa maturité, s'il est coupé avec le bon couteau dans l'angle idéal, et s'il est cuit à la seconde près, il a besoin d'aucun maquillage. Il n'a, oui. Donc la saveur est décuplée par cet art, d'où ça demande... Finalement, c'est un art de précision. Et si vous le réussissez, vous n'avez pas besoin de fioritures autour.
Et c'est la même chose avec vos tableaux.
J'essaie.
Non, c'est vrai, mais je regarde vos tableaux. Les gens peuvent aller sur mehel.ca, mehel, c'est mehel.ca, et voir le portfolio. C'est vrai qu'on n'a pas grand-chose, j'allais dire, de superflu dans vos tableaux. On est dans vraiment l'essentiel, et cette recherche de la beauté, on la voit immédiatement. Et dans toutes les œuvres, en fait, parce que vous êtes bien sûr peintre, mais vous êtes également... Vous travaillez le grès, vous travaillez en fait avec la porcelaine également.
Et le verre aussi.
Et le verre également. Oui. Mais elle, donc cette exigence que vous avez, cette recherche de la beauté, est-ce que vous êtes déçu par notre société aujourd'hui ou par les sociétés occidentales qui présentement traversent des grandes zones de turbulence. Ça, il faut se l'admettre. On n'a qu'à penser, il y a quelques semaines, à cette tuerie à Las Vegas. Plus de 50 personnes qui ont été tuées, plus de 400 blessés. Vraiment un acte de barbarie sans nom, parce que ce sont des gens qui étaient là à écouter de la musique, dans un acte artistique, quoi. Est-ce que le monde d'aujourd'hui vous décourage parce qu'il n'y a pas non plus cette grande recherche de la beauté?
Et je tiens
à souligner,
le port des armes aux États-Unis se fait au nom de la liberté, garantie dans la Constitution.
Ah oui, d'accord. Et...
La liberté de porter les armes.
Et ce qui est intéressant, c'est que Maëlle, elle-même, est dans êtes dans cette démarche de liberté. Il y a deux genres de liberté qui semblent se confronter, se rencontrer, mais qui ne s'entendent pas nécessairement.
La liberté sans éducation et sans principe est grave. Mm-hmm. Elle peut être dangereuse, en fait.
Ouais.
Et en fait, oui, le monde actuel est... La situation est interpellante. Pourquoi nous sommes arrivés à cette situation? Je me pose la question. C'est un grand débat. J'ai l'impression que la faille... nous avions failli dans nos programmes d'éducation.
Donc, à faire en sorte que les gens apprennent à apprivoiser cette liberté.
Oui, et le respect de l'autre.
Le respect de l'autre.
On apprend la liberté. Mais c'est drôle, mon enfance, moi, c'était des phrases à l'époque qui étaient inscrites au tableau. La liberté d'autrui s'achève là où la liberté de l'autre commence. Mais savons-nous définir la liberté de l'autre? Je me pose la question aujourd'hui. Est-ce qu'on n'est pas tourné à un égocentrisme énorme où les gens ne pensent qu'à leur propre liberté, mais ne réalisent pas que la liberté de l'autre est là, juste à côté?
Et vous mentionnez cette faille dans l'éducation,
oui.
Donc.
Ah oui, oui, c'est l'éducation, la base, c'est l'éducation.
Ouais.
On a simplifié tellement de choses, on a réduit les coûts aussi.
Mmh.
Et je ne sais pas si c'est voulu. Ou je pense que tous les choix qui se font sont mûrement réfléchis. Est-ce qu'on souhaite avoir des peuples devant nous qui ne se posent pas beaucoup de questions, qui ne réfléchissent pas et qui réagissent à l'instinct? L'instinct non contrôlé.
On dirait qu'on est là, en tout cas.
Oui.
Est-ce que c'est
non, non, c'est extrêmement grave, parce
ouais.
que vous citez ces dernières tueries. Moi, j'ai assisté, j'étais en Algérie encore, je n'avais pas quitté l'Algérie lorsqu'il y a eu des massacres de 500 personnes.
Dans les années 90.
Exactement, c'était terrible, c'était effroyable. Et c'est là, moi, mon inquiétude, pourquoi je vous dis, la haine me fait peur.
Mm-hmm.
C'est un sentiment qui me fait extrêmement peur. Parce que, moi, ne la connaissant pas, face à une personne qui peut avoir ce sentiment, je n'ai plus de possibilité d'échange.
Mm-hmm.
Il n'y a plus de... Encore une petite anecdote.
Oui,
au Japon, j'avais une amie qui parlait japonais et anglais. Mon anglais n'est pas parfait, loin d'être.
Est-ce que votre japonais n'est parfait?
Non, pas du tout. J'ai un gros handicap de langue. Je parle le français, je crois que c'est... J'essaie de maintenir à cette langue. En fait, donc je parlais avec elle. Bon, j'essayais, on s'exprimait. On pouvait avoir des conversations assez intéressantes. Mais pour vous dire, sans maîtriser la langue, lorsque les esprits ont le même mécanisme de pensée et les mêmes valeurs humaines, tout est possible, tous les échanges sont possibles. La langue n'est pas une barrière. Les cultures ne sont pas des barrières. Si les valeurs humaines universelles sont préservées.
Mm-hmm.
Je crois que c'est la base même de tout échange humain, entre ouais. humains.
Et donc, pour vous, oui. la langue n'est pas une barrière.
Non.
On a souvent pensé que la langue était une barrière.
Non, pas du tout.
Alors que la langue
non.
peut même être...
Au-delà de la langue, on peut s'exprimer. Au-delà de la langue, on peut échanger. Non, absolument pas.
Et elle mentionne, n'est-ce pas, qu'elle
oui.
était au Japon, mais elle était sur quatre continents.
Mmh.
Et lors de notre dernière conversation, elle m'a lancé en défi sans le savoir.
Ah, tiens.
On parlait de l'exil.
Oui.
Ah.
Et à mon sens, l'exil est foncièrement péjoratif. Eh bien, elle me fait repenser l'exil. Elle qui a habité au Maghreb, en Europe, au Japon, en Amérique du Nord. Et j'invite l'auditoire de Radio OVM d'entrer dans le concept bien articulé de l'exil chez Maël.
Ben oui, parce que vous vous êtes installé à Montréal en 1999.
Oui.
De 1982 à 2000, vous avez exposé essentiellement des sculptures florales à Tokyo, Alger, Paris, Montréal. Et après quelques années de recherches techniques pour fusionner la peinture et la sculpture, ben vous avez exposé à Montréal, à Boston, des peintures sculptées et ces sculptures en grès à partir de 2000. Donc, et voilà. Mais vous avez choisi quand même votre exil jusqu'à un certain point.
Si on
Est-ce
peut.
Que vous l'avez choisi?
Écoutez, on peut être en exil déjà dans le pays où l'on vit.
Oui,
si on ne partage plus certains principes.
Je pense aux États-Unis du professeur
Exactement.
Cornett. Qui, États-Unis qui sont divisés.
Vous pouvez vivre l'exil quel que soit l'endroit.
Mm-hmm.
Vous pouvez déjà être en exil. Maintenant, oui, ça a été un choix, mais dû à des situations.
Encore une fois, choisi quand même.
Mais choisi.
Je l'espère, oui.
Oui, oui, choisi. Ouais. Choisi pourquoi? Parce que j'ai choisi un endroit où je peux comment dirais-je, j'ai choisi, c'est un choix de société, c'est pas une émigration économique, non.
Mm-hmm.
C'est un choix de société. J'ai choisi de vivre au Québec parce que là, oui, le profil, la société québécoise, les principes qui sont défendus, oui, sont mes valeurs.
Est-ce que l'exil est libérateur?
Oui, mais moi je me dis que l'exil, c'est une manière de couper le cordon ombilical.
Également.
Oui.
Toujours s'il est choisi quand même,
oui,
non?
Oui, même, je pense qu'on coupe, c'est une rupture.
Oui, c'est une rupture.
Et elle nous fait grandir. Et moi, je trouve que oui, l'exil est libérateur. Je ne le vois pas comme étant... pour moi, il n'y a pas de souffrance. Non, absolument pas. Et surtout, il n'y a pas de regret.
Mmh.
Non.
Dans cette liberté que vous avez choisi de voyager, de voir...
C'est la vie, c'est l'évolution. Mmh. J'évolue constamment. Je ne stagne pas.
Vous êtes une vraie femme du monde.
Voilà.
Comme vous l'avez dit au début de l'entrevue,
oui.
C'est exactement ça. Vous choisissez le monde comme votre monde et vous dites non, moi je ne suis pas obligée d'être français ou française, d'être québécois ou québécoise, d'être née là, ou même en Algérie, je ne suis pas obligée d'être nécessairement toujours en Algérie pour me sentir algérienne ou bien québécoise aux heures où...
Non, je vous dis, je me sens de tout. Je me sens japonaise au Japon, je me sens italienne en Italie, je me sens algérienne sur certains trucs, pas tout.
Ainsi, elle nous ramène à la condition humaine, qu'au fond, on est tous pèlerins sur cette terre.
Oui, exactement. Écoutez, on a seulement une minute. Je vais en profiter pour vous dire merci, Maëlle.
Merci.
D'être venue nous parler
de
votre démarche.
Oui. Je vous remercie beaucoup de nous avoir écoutés et c'était franchement un plaisir pour moi de partager avec vous.
Un grand plaisir de partager avec vous. J'espère qu'on aura l'occasion de se revoir parce que votre démarche artistique vaut le détour.
Merci
beaucoup, professeur Cornett.
Oui, et vous avez dit que Maëlle est peintre et elle était également philosophe.
Oui, et donc je rappelle simplement l'exposition de Maëlle du 19 au 30 octobre à la galerie Erga, ça c'est dans le quartier Rosemont. Faites aller vos moteurs de recherche. Merci beaucoup à notre ami Pierre de Gagné qui est à la régie. Merci beaucoup aux équipes techniques de Radio-VM et de Radio-Galilée. Je rappelle simplement que Question d'aujourd'hui vous est présentée en collaboration avec l'Office de catéchèse du Québec. Pour toute information, bien, vous faites Question d'aujourd'hui dans votre moteur de recherche et vous trouverez très facilement pour réécouter des émissions. Voilà, ici Mario Barre, je vous dis à bientôt.